Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Double attaque des Mai Mai ce matin à Butembo, Nord Kivu. La première contre la base logistique de la MONUSCO et la seconde contre une position des FARDC. Bilan, un mort et des capturés dans les deux sites attaqués. Des cas de criminalité signalés ces derniers jours dans plusieurs coins de Mbuji-Mayi. La nuit dernière, deux personnes, dont un curé, ont été blessées par des bandits armés. Le maire de la ville demande à la population de dénoncer les personnes suspectes qui sèment terreur et désolation dans la ville de Mbuji-Mayi. Et puis, l'invité de ce midi, Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, y revient sur la rentrée politique de Vital Kamerhe, président de ce parti politique. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par cette double attaque des Mai Mai signalée ce mardi matin à Butembo. La première a eu lieu contre la base logistique de la MONUSCO et la seconde a ciblé une position militaire dans la partie nord de la ville. Le bilan fait état d'un assaillant tué et des capturés au niveau des deux sites attaqués. Récit des faits avec Grace Amzati.
C'est vers 4 heures du matin, heure locale, que des hommes armés ont attaqué la base logistique de la MONUSCO Butembo. Des sources sécuritaires locales affirment que les forces de sécurité ont vite réagi à l'attaque et ont repoussé l'ennemi, l'empêchant d'accéder à ses installations situées dans les quartiers Kambali en commune de Vulamba. C'est à plus ou moins 100 mètres de l'hôtel de ville. La même source rapporte que deux assaillants ont été capturés, parmi lesquels se trouverait un déserteur de l'armée, capturé arme à la main. Le commandant des FARDC dans la ville, le colonel Epape Mosebo Masebi, que nous avons joint au téléphone, a juste confirmé l'attaque, promettant d'autres détails dès que possible. Dans un communiqué, le capitaine Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord Kivu, affirme que l'armée a fait face à un autre groupe de Mai Mai à l'aube de ce mardi dans la cellule Fourou vers le nord de la ville de Butembo. Après échange de tirs, l'armée affirme avoir tué un assaillant et son arme récupérée. Deux autres combattants ont été capturés, ajoute la même source. À présent, le calme est revenu dans la ville et la situation est sous contrôle, indique le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, commandant urbain de la police nationale.
Par ailleurs, la communauté Babingi du groupement de Binza, territoire de Rutshuru, demande au gouvernement congolais de récupérer leurs 4 villages et 2 collines sous administration ougandaise. Dans une correspondance de doléance adressée au ministre congolais de l'Intérieur, cette communauté ethnique indique qu'après l'opération de démarcation et bornage faite par les équipes de la RDC et de l'Ouganda en 2018, ces entités ont été reconnues appartenant à la RDC. Cependant, 4 ans après, les populations de ces villages se disent considérées comme des apatrides. Retrouvons à nouveau Grace Amzati pour les détails.
D'après le président de la communauté de Babingi, l'opération conjointe de démarcation et bornage des limites transfrontalières entre la RDC et l'Ouganda avait été faite par des délégations conjointes composées des hautes autorités de ces deux pays en 2018. À l'issue de cette opération, les villages Kasenyi, Mutsongo, Chizingiro et Kabumba ont été reconnus appartenant à la RDC, ainsi que les collines Sarugera et Rusura. C'est notable et s'est dit étonné que 4 ans après, ces entités déjà limitées et bornées continuent à être gérées et administrées par l'Ouganda, ce qui rend, selon Adlar Bineza Masaka, les populations de ces villages des apatrides. Selon la même source, cette situation d'ambiguïté est le plus souvent à la base d'arrestations arbitraires des pêcheurs et armateurs congolais sur le lac Édouard par la marine ougandaise, mais également à la base de l'exploitation illégale des ressources naturelles et de la déviation de certaines limites naturelles. Face à cette situation, ce chef suggère au gouvernement congolais de se pencher sur ces dossiers urgemment pour permettre la restauration de l'autorité de l'État dans ces entités coutumières concernées et rassurer ainsi les populations. Il demande également la suppression des anciennes limites congolo-ougandaises constituées de gros arbres en faveur d'un reboisement de la partie nouvellement démarquée, limitée et bornée. La création d'une zone neutre entre les deux pays serait la meilleure solution, dit Adlar Bineza.
Entre-temps, en Ituri, le député national Wilson Adirodou appelle le gouvernement à accélérer la procédure de dangers des miliciens favorables au processus de paix afin d'éviter que ces derniers ne commettent des exactions contre la population civile. Il a dit ce mardi à Bunia au cours d'un point de presse faisant suite aux consultations que mènent les autorités depuis 5 jours avec les représentants des groupes armés signataires des actes d'engagement et leurs leaders communautaires respectifs. Pour cet élu du territoire d'Irumu, le programme DDRCS doit être rapidement opérationnel pour le retour de la paix en Ituri. Martial Kiza.
C'est depuis le jeudi dernier que les autorités militaires, avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO, consultent les différents dénotés Bira et Ngiti, associés aux représentants des groupes armés, forces patriotiques intégrationnistes du Congo, FPIC, et forces de résistance patriotique du pays. L'objectif est d'élaborer un plan d'action des bonnes conduites des miliciens signataires de l'acte d'engagement et de leur prise en charge, en attendant le début du programme 2DRCS. Pour les députés nationaux, Wilson Adiro, le gouvernement doit prendre au sérieux les problèmes de la prise en charge des miliciens en cette période pour limiter les exactions contre les civils.
Il est vrai que nous sommes dans le processus, mais malheureusement nous avons constaté que le processus de DDR-RRC marche à pas de tortue. C'est pour cette raison que nous lançons notre message au gouvernement de la République de s'efforcer pour rendre effectif ce programme, puisqu'il y a des volontaires parmi les groupes armés qui voudraient effectivement déposer les armes et intégrer la vie sociale.
Il salue par ailleurs l'implication du gouverneur des provinces, le général Johnny Luboyankachama, et sa détermination à amener les groupes armés à adhérer aux idéaux du développement et de la cohabitation pacifique. Bunyango, Radio Okapi.
Du côté du Sud Kivu, trois jours après les affrontements entre les combattants Truwaneo Makanika et les miliciens Bilozi Bishambuke à Bigaragara et Kijombo, la situation demeure incertaine pour les populations. La société civile de Milimba, dans les hauts plateaux de Minembwe, s'est dit préoccupée par les massacres de civils et souligne que la majorité des déplacés internes ne peuvent plus retourner chez eux, les villages ayant été incendiés par les assaillants. Le point de la situation avec Fiston Ngoma Mayabala.
La société civile de Milimba avance un bilan des deux écoles primaires et secondaires calcinées, 142 cases incendiées et 8 chèvres emportées à Kijombo. Ce bilan s'ajoute à celui de Bigaragara mercredi où 21 personnes dont 9 femmes et 6 enfants ont été tuées. Certains corps ont été retrouvés calcinés dans des maisons, d'autres présentant des impacts de balles dans la brousse. Le président de la société civile de Milimba exprime son désarroi et condamne ce qu'il qualifie de massacre des civils. Patrick Urukebesha.
Le gouvernement puisse repousser les ennemis et tous les groupes armés qui sont là.
La société civile de Minembwe Centre, elle, parle d'un calme précaire à Bigaragara et Kijombo. Cependant, Saint-Kadé Rouvouza souligne qu'ils n'ont pas toujours accès à la zone des combats et ne peuvent annoncer aucun bilan.
Les autres qui peuvent vous donner les informations, ce sont des gens qui étaient au front, des combattants désirés. L'ennemi aujourd'hui n'a pas d'affrontement.
De leur côté, les populations civiles continuent à errer dans la brousse sans assistance aucune. Cette situation préoccupante doit interpeller le gouvernement congolais, souligne Jean-Baptiste Kavunja-Vunja, chef de programme du comité de suivi des accords de cesser le feu des groupes armés locaux. Des sources militaires de la 12e brigade de réaction rapide contactée à Minembwe confirment ces combats sans donner d'autres détails. Douvira Fiston Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Direction le Kasaï oriental. Quelques cas de criminels ces derniers jours dans plusieurs coins de la ville de Mbujimayi. La nuit dernière, par exemple, deux personnes, dont le curé de la paroisse catholique de Transfiguration, ont été blessées par des bandits armés non autrement identifiés. La police nationale congolaise dit avoir ouvert les enquêtes pour identifier ces bandits. Le maire de la ville, lui, demande à la population de dénoncer les personnes suspectes qui sèment la terreur et la désolation dans la ville. Explication Esther Ndalafina.
Plusieurs coins de la ville sont actuellement touchés par des cas de criminalité. La nuit dernière, les hommes armés, non autrement identifiés, ont fait irruption à la paroisse catholique Transfiguration située dans la commune de Bipemba. Les sources sur place affirment que c'est hors la loi, ont passé à tabac les jeunes qui étaient à la paroisse avant de blesser grièvement les curés venus au secours. La victime est hospitalisée aux soins intensifs dans un centre hospitalier de la place. Pas plus tard qu'hier, une famille a été victime de vol au quartier Bel Air dans la commune de Lakanchi. Le bandit armé ont tiré plusieurs coups de feu en l'air avant d'emporter de l'argent et quelques biens de valeur. Le maire de Mbujimayi, Louis Dontumba, déplore ces faits et demande à la population de dénoncer les personnes suspectes.
La sécurisation de notre ville est l'œuvre de nous tous. Tous les gens qui volent ici habitent sur la ville. L'autre côté, c'est nous-mêmes l'État. Nous devons renforcer la sécurisation. Dans d'autres pays, c'est la population qui dénonce, c'est la population qui permet à l'État de découvrir.
Du côté de la police nationale congolaise, l'on affirme que les enquêtes sont ouvertes pour identifier ces bandits armés. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, signalant l'incendie d'une école le dimanche à Kongolo. Des sources sur place indiquent que des inconnus ont mis le feu sur Isma Bigogo pendant la journée. Très indigné, le préfet de l'école ne sait à quel sens est voué. Cet incident intervient à 2 semaines de la rentrée scolaire. Le point avec Paulin Munanga.
Le préfet du groupe scolaire Bigogo dit avoir été alerté par téléphone dans l'après-midi de ce dimanche. Une bonne partie de son école venait d'être incendiée par des inconnus. Et pourtant, dans la matinée, il était à l'école pour organiser les préparatifs des inscriptions pour la rentrée scolaire. D'après lui, les dégâts sont considérables. Alif Moussou Yulubamba signale que l'année passée, son école a inscrit plus de 700 élèves et aligné plus de 100 finalistes aux épreuves de l'examen d'État. Il lance un SOS.
Ce bâtiment organise 4 salles et à l'intérieur de ce bâtiment, il y avait des pupitres. J'ai perdu une affaire de 72 pupitres plus 80 banquettes. Cette école est Bigogo. C'est une école qui organise 4 options dont nous avons la pédagogie générale, la technique sociale, la commerciale de gestion ainsi que la scientifique. Et l'année passée 2021-2022, on avait inscrit une affaire de 700 et plus d'élèves. Nous demandons seulement aux gens de bonne volonté, les ONG, les églises, les gouvernements vraiment de nous venir en aide.
Le sous-prefet de l'enseignement Kongolo 1 déplore cet incident malheureux. Mwenge Binpungu demande au préfet de l'école incendiée d'organiser les enseignements même l'après-midi pour ne pas pénaliser les enfants en attendant une solution. Alemi Polemunanga, Radio Okapi.
Restons dans le Grand Katanga. Le lycée Lubusha, situé à Luisha dans le territoire de Kambove, est menacé de démolition au profit de l'exploitation minière. Des voix s'élèvent pour s'opposer à ce projet. La toute dernière est celle de Moïse Katumbi, président de Ensemble pour le changement. Pour ce dernier, les richesses enfouies dans le sous-sol de notre pays ne valent rien par rapport au génie qui sommeille dans chaque enfant du Congo. Pour cela, il invite tous ceux qui se sentent concernés par la formation et l'éducation des enfants à se dresser contre la destruction de cette école au profit de l'exploitation minière. Jean Gando.
Cette prise de position de Moïse Katumbi est contenue dans un communiqué qu'il a signé depuis la ville de Lourdes en France. Le président de Ensemble pour la République appelle les autorités à se ressaisir en faisant preuve de responsabilité en interdisant la démolition de ce lycée. Pour lui, la jeunesse a la vitalité débordante et ne demande qu'à être éduquée, formée et encadrée pour assurer l'émergence de notre pays. Il renchérit en disant que notre avenir n'est pas dans les mines mais dans l'éducation de nos jeunes et nul ne doit en douter. Faire le choix de petits profits immédiats au détriment de la formation de jeunes filles relèverait tout simplement d'un aveuglement criminel. Voilà pourquoi il dit s'opposer farouchement à la destruction de ce lycée. Ainsi, il promet que dès son retour au pays, il ira apporter tout son soutien au combat des élèves et des professeurs qui les encadrent. Notons que dans un passé récent, les élèves de cet établissement scolaire étaient descendus à Lubumbashi pour dénoncer les projets de démolition de leur école au profit de l'exploitation minière d'une entreprise installée dans le coin. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province du Maniema, plus de 300 chefs d'établissement et autres cadres de l'enseignement supérieur du Maniema participent depuis hier à un atelier de formation sur les pratiques innovantes selon le LMD. Cette session de formation organisée par le président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU Maniema connaît la facilitation des membres de la commission permanente des études venues de Kinshasa pour cette fin. Florence Kiza, reportage.
Enseigner et évaluer autrement avec les LMD, c'est le thème de cet atelier basé sur les fondamentaux juridiques et pédagogiques du système LMD. Professeur Patrick Mobambo, président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU Maniema, revient sur la nécessité de cet atelier.
Pour l'UNIKI, il fallait parfaire ce que nous n'avons pas eu comme formation. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont jamais eu cette formation, qui n'ont jamais été en contact avec les formateurs en LMD, qui ont seulement appris que chaque établissement est obligé maintenant de basculer dans le nouveau système. Alors, il fallait les aider à ce qu'ils puissent aussi avoir ces connaissances-là.
Ces assises de 3 jours permettront aux participants d'avoir des notions essentielles sur la formation selon l'approche par compétences, a dit professeur émérite Kaboul Weva, secrétaire permanent de cette commission.
La différence, ce n'est pas en termes de quantité, mais la différence, c'est en termes de la qualité. Le LMD, son objectif, c'est de former des diplômés qui sortent compétents qui peuvent servir déjà le marché d'emploi selon la réalité nationale parce que nous disons c'est la formation selon l'approche par compétences.
C'est l'amphithéâtre Mapon qui sert de cadre à ces assises de 3 jours. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Dans la province du Kwilu, la dysenterie amibienne sévit dans le territoire de Massimanimba. Plus de 20 personnes seraient affectées par cette maladie dans la zone de santé de Mosango. D'après l'enquête menée par une équipe de la zone de santé, cette situation est consécutive à l'absence des installations hygiéniques et la consommation d'eau non potable par la population, ce que confirme le ministre provincial de la Santé et l'élu de Massimanimba, Donald Sindani, interpelle les autorités compétentes. Irène Boma.
Cette dysenterie amibienne est signalée précisément au village Kumbi Fioti, situé dans l'aire de santé de Kumbi Makupa, zone de santé de Mosango. Déjà, plus de 20 cas sont enregistrés en quelques jours. Les malades présentent comme signes cliniques, notamment la diarrhée sanglante, la douleur abdominale et autres. Selon le ministre provincial de la Santé du Kwilu, le manque d'hygiène d'eau et d'assainissement est à la base de cette situation dans cette partie du territoire de Massimanimba.
C'est lié aux mauvaises conditions d'hygiène. Les gens font la défécation à l'air libre par manque de toilettes hygiéniques et aussi il n'y a pas de source aménagée, donc manque d'eau potable.
Préoccupé, le député provincial Donald Sindani, élu de Massimanimba, plaide pour l'amélioration des conditions de vie de cette population.
C'est une occasion pour moi de pouvoir interpeller les autorités locales pour que le service d'hygiène continue à faire le travail qu'il faisait il y a quelques années, mais aussi à la population elle-même de pouvoir se prendre en charge.
Précisons qu'une équipe venant de la zone de santé de Mosango a été dépêchée sur terrain pour des investigations et la prise en charge, a signalé le ministre Benamutui. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, le village de Makailab n'a pu résister aux fortes pluies qui se sont abattues sur ce village, forçant les habitants à quitter leurs terres. Dimanche, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans l'état du Nil et 5 autres états. Après les dégâts causés par ces inondations, quelques habitants tentent de récupérer quelques-unes de leurs affaires dans ces décombres. L'Ukraine a reconnu hier que près de 9000 de ses soldats ont été tués depuis le début de la guerre il y a 6 mois, tandis que l'Union européenne envisage une mission d'entraînement de l'armée ukrainienne face à une guerre qui dure.
L'invité.
Nous recevons le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, Billy Kambale, revient sur la rentrée politique de Vital Kamerhe, président de ce parti politique, rentrée annoncée hier à travers une réunion de la direction politique de l'UNC tenue à Kinshasa. Billy Kambale s'entretient avec Grace Amzati.
Monsieur Billy Kambale, bonjour.
Bonjour.
L'UNC a tenu une réunion politique, une sortie politique, c'est lundi 22 août, autour de son président Vital Kamerhe. Que peut-on retenir de cette sortie politique de ces jours?
Il faut d'abord préciser que c'est une de la direction politique nationale de l'UNC, mais aujourd'hui, ça revêtait d'un caractère un peu particulier parce que ça faisait plus de 2 ans que nous ne nous sommes pas retrouvés autour de notre président national. Et donc aujourd'hui, c'est pratiquement sa rentrée politique. Il a présidé cette réunion. Ça tournait autour essentiellement du bilan. Nous devrions lui faire rapport de ce que nous avons fait pendant son absence, notamment l'acquisition du nouveau siège de l'UNC sur Avenue de l'Enseignement, où nous lui avons remis le certificat d'enregistrement au nom de l'Union pour la Nation Congolaise, œuvre des militantes et militants et cadres du parti qui se sont cotisés pour l'acquisition de ce siège. Nous avons fait le bilan de l'implantation du parti qui aujourd'hui rayonne dans les 145 territoires du pays. Mais aussi, on doit poursuivre effectivement l'implantation pour atteindre les entités territoriales décentralisées, en prévision des élections, bien sûr, de 2023. Nous avons parlé aussi de la situation aujourd'hui préoccupante de l'Est du pays avec cette guerre barbare et injuste qui est imposée encore une fois à notre peuple. Mais le président a précisé que la primaire de son message, il réserve à cette population meurtrie parce qu'il est prévu une grande tournée à l'Est du pays au début du mois de septembre.
Et sur le plan politique, quelles sont les perspectives de l'UNC selon Vital Kamerhe?
Nos perspectives se résument à l'activisme de notre parti. Nous avons conscience que nous avons un rôle à jouer et nous sommes sur terrain en train de mobiliser nos militants en prévision des élections. Mais aussi, nous savons très bien que nous avons un rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que nous sommes géniteurs du pouvoir en place. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que c'est d'abord et avant tout notre parti qui prime avant toute autre option politique. Et nous travaillons pour la victoire prochaine de notre parti aux élections.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que Vital Kamerhe confirme son lien avec Félix Tshisekedi, le président de la République.
Nous n'avons jamais nié notre lien parce que c'est l'histoire. Nous avons contribué pour que nous puissions avoir ce pouvoir, mais nous disons encore une fois, pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est l'essor de notre parti. Et nous avons tenu à l'exprimer au président national de notre parti pour lui dire qu'il peut compter sur nous. Nous sommes déployés sur terrain et il peut compter sur les filles de ce parti pour faire en sorte qu'en 2023, nous ayons la victoire électorale. En ce qui concerne nos liens, nos partenaires, ce sont des choses qui vont se discuter et nous verrons quel sera notre apport par rapport à l'avenir. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de retenir que notre président a fait sa rentrée politique et il compte bel et bien jouer son rôle en tant que leader dans ce pays.
Et cela à n'importe quel poste qui pourra lui être encore une fois de plus accordé au sein de l'Union Sacrée pour continuer à servir la nation.
Nous n'avons pas d'obsession pour les postes. Les postes n'ont jamais fait l'objet de discussions au sein de l'UNC. Jamais, alors jamais. Nous ne nous sommes jamais réunis pour parler du poste qui doit occuper notre président. Ça, il faut que la population le sache. Aujourd'hui, nous avons nos regards tournés vers la guerre qui se vit à l'est du pays et nous savons très bien que notre président a un rôle à jouer et c'est autour de ces questions que nous sommes en train de parler et nous évoluons. Donc, Nous n'avons pas en tout cas d'obsession pour des postes politiques.
Quelle analyse que vous, l'UNC, vous faites par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'Est et quelles sont les propositions, quelles sont les pistes des solutions pour dénouer cette crise selon Vital Kamerhe?
Non, nous avons dit que la primaire de son message et ses propositions, il réserve aux populations qui sont victimes de ces atrocités. Donc de ce côté-là, vous pouvez garder votre mal en patience, nous aurons le temps d'en discuter. Mais le moment venu, donc pour l'instant, je ne vous voudrais pas spéculer sur son message. Il est en tout cas en train d'y travailler et le moment venu, vous saurez quels sont les points forts de son message. Et c'est dans pas longtemps, au début du mois de septembre.
Monsieur Billy Kambale, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, répondait aux questions de Grace Hamzati. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.